Hello, bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Humbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Justine.
Salut Caroline.
Comment ça va ?
Je vais très bien, et toi ?
Bah super, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour cette deuxième interview d'entrepreneuse qui déchire.
Merci à toi pour ton invitation, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
Le plaisir est partagé. Alors, avant de commencer l'interview, je voulais juste faire un tout petit laïus sur comment j'ai connu Justine. Mm-hmm. En vrai, je me souviens plus exactement comment je t'ai connue. Je pense que c'est sur Instagram, je devais suivre des gens que tu suivais et je t'ai trouvée. Et au final, on s'est bien trouvés puisque j'ai suivi ta formation MOVA, qui signifie « murmurer à l'oreille de votre audience ». Et en fait, c'est grâce à cette formation que j'ai pu passer à l'action et enfin créer ce podcast. Donc je te dédie cet épisode, Justine.
Merci.
Parce que vraiment, ça m'a vraiment permis de passer à l'action. C'était sur 8 semaines. Et y avait toutes les informations pratiques pour que je puisse créer mon podcast. C'était une envie que j'avais depuis un bon moment. Le lancement de la formation m'a donné le petit coup de pied aux fesses et puis hop, j'ai lancé le podcast en suivant. Donc ça c'est très 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 cool. Je vous conseille la formation. Un petit oiseau m'a dit qu'en 2023, il devrait y avoir une nouvelle session.
Et merci beaucoup encore une fois pour ta confiance. Ça faisait combien de temps que tu attendais de lancer ce podcast ? Parce que tu tournais autour du pot depuis un moment. Hein.
Ouais, ça faisait un moment. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'adore consommer des podcasts. Et j'aime bien parler aussi. Donc ça faisait, je pense que ça faisait au moins 6 mois que je me disais quand même ce serait peut-être pas mal pour ton business. Vu que je cherchais les canaux de communication les plus pertinents pour communiquer. Le podcast m'avait paru assez évident, mais c'est vrai que j'étais dans une situation professionnelle qui me laissait pas beaucoup de temps pour investir un nouveau canal de communication. Mais du coup, on s'est trouvé au bon moment, je pense.
Oui.
Et alors, Justine, du coup, elle est spécialiste des podcasts, mais pas que. Puisqu'elle propose également... Enfin, elle est également mentor business. Et elle propose un programme de 3 mois qui s'appelle « Réveille ton biz ». Oui. Qui sert à gérer, structurer, simplifier ton business. Et à l'heure où je vous parle, il y a une nouvelle session qui commence dans 2 jours.
C'est ça.
Donc, si jamais ça t'intéresse, il ne te reste plus qu'une journée pour t'inscrire. Les inscriptions sont closes le 19 octobre et ça commence le 20.
C'est ça, exactement.
Donc, ne tarde pas. Et puis bon, bien sûr, Justine, elle a d'autres cordes à son arc, mais elle nous en dira un petit peu plus durant son interview.
Totalement. Mais merci pour cette présentation.
Avec plaisir. On va commencer avec la toute première question. Donc, je vais te demander de te présenter et du coup, peut-être, de dire ce que je n'ai pas encore dit sur toi.
Oui. Alors, que dire que tu n'as pas encore dit ? Tu l'as bien présenté, je suis mentor business et podcast, mais moi, ma mission, vraiment, ce qui est viscéral, en fait, c'est d'aider les entrepreneurs, certes, à développer leur entreprise, mais surtout à ne pas subir ce qu'ils ont créé. J'ai accompagné sur les 2 dernières années un peu plus de 300 entrepreneurs et globalement, principalement même sur la phase de lancement de leur entreprise. Et quelques temps après, ils sont revenus vers moi avec des conseils que je leur avais déjà dit, mais où c'était trop tôt, en fait, notamment en termes de structuration, gestion, organisation, bien-être, etc. Ils sont revenus vers moi en me disant « Mais Justine, mon biz, c'est trop bien, ça cartonne, mais c'est allé trop vite. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et c'était des entrepreneurs un peu, non pas en détresse, mais sur une échelle de 1 à 5, c'était pas fifou en termes de « je me sens bien dans mon entreprise », quoi, tu vois. Et en fait, j'ai réaccompagné plusieurs personnes et c'est là, en fait, où je me suis sentie le mieux. Mais vraiment, dans ma position de mentor. Et je me suis vachement aussi retrouvée dans mon propre parcours parce que finalement, l'entreprise que j'ai aujourd'hui n'est pas l'entreprise que j'ai créée en 2018. Au départ, j'étais social media manager, plus précisément chef de projet digital dans l'industrie musicale. Donc, j'aidais les artistes et les pros de la musique. Et en fait, il y a un moment donné, je n'ai plus aimé mon business, je n'ai plus aimé mes clients, je n'aimais plus ma vie. J'étais en totale souffrance. Il a fallu que je fasse des choix. Il a fallu que j'arrête des choses et que je pivote. Et en fait, bah, c'est à chaque fois, entre guillemets, la même chose dans mon entreprise où je fais en sorte d'adapter, d'avancer, de supprimer, d'ajuster pour qu'à chaque fois, en fait, mon entreprise me corresponde, dans laquelle où je dois me sentir bien, où je ne dois surtout pas être mon pire patron, ma pire salariée, ma pire ennemie, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé mes accompagnements et surtout le programme Réveille ton biz, où j'aide vraiment les entrepreneurs à passer d'un business un peu chaotique à une entreprise simple, structurée, rentable, dans laquelle on retrouve du temps pour faire des choses qui nous plaisent, tu vois. Et le podcast est arrivé naturellement aussi là-dedans, mais même avant de vraiment faire du mentorat business, parce que c'est mon projet passion, parce que j'ai lancé au sein de mon entreprise et parce que je me suis rendu compte que c'était un vrai levier, en fait, de visibilité, d'acquisition, d'expertise, de confiance. Et voilà, j'ai mixé tout ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, mon business s'appelle même Réveille ton biz, que j'ai un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs pour retrouver leur place dans leur entreprise et l'envie d'être dans leur entreprise et un accompagnement pour lancer un podcast au service de son business et aussi, du coup, bah, au service de sa vie. Voilà.
D'accord. En fait, on en discutait en préambule, mais ce qui ressort là de ce que tu viens de me dire, des accompagnements que tu kiffes en fait, de ce que j'interprète, tu aimes bien aider les gens à aller à l'essentiel.
Complètement. C'est ça ? Complètement. En plus, quand on se lance, on n'a qu'un seul objectif, c'est bim, signer des clients, vite ça se lance et vivre de son activité. Et c'est après en fait qu'on se rend compte que bah, il faut un peu déconstruire, parce qu'on a mis plein de choses en route d'un coup pour être en phase de lancement, de rush, comme quand tu lances une fusée, quoi, tu vois, plein gaz. Et puis en fait, à un moment donné, bah, tu commences un peu à t'essouffler, tu commences à dire, ah bah, ça finalement, tu fais tes premiers bilans, bah, ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Donc tu déconstruis, tu ajustes. Et retrouver l'essentiel, en fait, bah, pour moi, c'est essentiel du coup, parce que ton entreprise, tu l'as créée d'une envie. Ça part de toi pour aller vers l'autre. Et si à un moment donné, bah, ça ne part plus de toi, que tu es juste vers l'autre et que tu as juste ton planning et que tu rentres dans ton bureau comme quand tu rentrais jadis dans ton entreprise dans laquelle tu étais salarié ou tu avais la pression d'un boss, bah, en fait, il n'y a plus les avantages de l'entrepreneuriat, tu vois.
Bien sûr. Ouais, et puis bon, c'est vrai que quand on est entrepreneur, en fait, quelque part, on n'a plus le temps de perdre du temps.
Mais oui.
De faire des choses qui ne nous plaisent pas, sinon on ne serait pas entrepreneur, effectivement.
C'est ça.
Alors je passe à une question que j'affectionne particulièrement dans mes interviews, c'est le portrait chinois. Mm-hmm. Alors je t'ai envoyé une liste d'éléments, parmi lesquels tu pouvais en sélectionner 5, et donc tu vas me dire, si tu étais tel élément, tu serais... Pour
ça
qu'on
marche.
Te connaisse un petit peu mieux.
Ok. Alors, tu m'as proposé plusieurs choses et donc j'en ai choisi 5. Et la première, si j'étais un jeu, je serais les Sims. Parce qu'en fait, j'adore jouer aux Sims dans l'idée que rien n'est impossible, que tout est à imaginer et à construire. Et qu'en fait, on peut aussi déconstruire, déplacer sa maison, rencontrer des nouveaux gens, etc. etc. Donc j'aime cette possibilité infinie que permet en fait de faire des Sims. Alors effectivement, tu as des petits raccourcis, des petits cheat codes, genre Simfoos pour être méga riche d'un coup. Du coup, la vie est plus simple, j'avoue. Et des fois, dans la vraie, t'es là genre, oh, je peux pas taper mon code quelque part, là, ça marche pas, nul.
Ou planter un petit arbre à Simfoos.
Exactement, aussi, tu vois. Mais ouais, si j'étais un jeu, je serais celui-ci.
Ah, j'aime beaucoup les Sims aussi. Moi, j'aurais vraiment aimé, quand je travaillais dans les jeux vidéo, bosser au développement des Sims, parce que je trouve que l'équipe de développement a vraiment eu des idées extra, et j'aurais adoré imaginer justement toutes ces idées, toutes ces carrières, toutes ces interactions.
Mais totalement. Et avec les extensions, moi, l'extension que j'utilise le plus et sur laquelle je joue actuellement, c'est celle avec les sorciers, les gens bizarres, etc. Tu vois, et du coup, tu peux avoir des missions, genre devenir agent secret pour percer le mystère de telle ville, etc. Aller parler. Enfin, moi, j'adore ça. Enquêter en plus. Enfin, non, c'est trop bien.
Ah, trop bien. Je pourrais y passer des journées.
Oui, 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 moi aussi.
Ok.
La deuxième chose, si j'étais un plat, eh bien, je serais des lasagnes à la bolognaise, mais végétarien. Alors déjà parce que j'adore ce plat, c'est mes origines, c'est la convivialité, c'est la générosité, c'est la famille, mais c'est aussi le plat préféré de mon chéri et moi-même, et c'est aussi le plat sur lequel on a fait un pacte il y a 15 ans, ou quand on était adolescent, on s'est dit peu importe où est-ce qu'on sera dans le monde, on se retrouvera dans 10 ans et on mangera des lasagnes. Ce qui fait que chaque année, pour nos années d'amoureux, eh ben, en fait, on se fait des lasagnes aux chandelles.
Ah, c'est trop mignon. C'est un peu Belle et le Clochard version lasagne, quoi.
C'est ça. Alors, avant, c'était des lasagnes au bœuf. Mais je ne mange plus de viande depuis déjà quelques années. Mmh. Et du coup, je n'ai pas perdu mes habitudes alimentaires et culinaires. Et du coup, j'ai adapté l'essentiel de mes recettes en version végétarienne, notamment celle-ci. Et d'ailleurs, quand j'invite des amis, et des fois tu fais des lasagnes parce que c'est des grands plats, etc., etc., et ben personne ne voit que ce n'est pas du bœuf. Voilà.
Ok, alors du coup, tu utilises quoi comme substitut ?
Entre guillemets, viande végétarienne. Tu trouves ça dans le rayon frais, dans les grandes surfaces ou alors magasins bio. C'est un... Ça ressemble en fait à de la viande hachée, mais en fait, non. C'est soit à base de soja, soit à base de seitan, etc., ou de blé. Et en fait, tu mets ça avec ta meilleure sauce tomate, si possible celle de ta grand-mère, sinon celle que tu peux faire, ou au pire celle que tu achètes, d'accord, si tu n'as pas le temps, que tu es entrepreneur, tout ça. Mais du coup, ouais, les gens, ça passe à travers, quoi. Et je suis très contente de ma supercherie, parce qu'à la fin, je suis là genre, hey, il n'y avait pas de viande dedans. Ah bon ? Tu m'as arnaqué ? Non. Je ne t'ai juste rien dit. Voilà.
J'avoue, moi, je mange de la viande, mais je suis très attirée par la cuisine végane, végétarienne. Du coup, je teste pas mal de substituts à la viande. Et c'est vrai que c'est assez bluffant, j'avoue.
Totalement, totalement. Moi, je te dis, j'ai adapté la majorité de mes plats, bref, on va dire même des hot dogs, des burgers, mes barbecues. Tout est en mode végé et je me régale, quoi. Alors, c'est vrai que, du coup, quand je me fais inviter, notamment à un barbecue, je viens avec mes merguez végétariennes, tu vois.
Bien sûr.
Parce que, déjà, tu ne trouves pas ça facilement. Et ensuite, les gens ne savent pas trop quoi m'acheter. Et généralement, ils se ruent sur des légumes. Mais oui, je mange des légumes, mais pas que. Et puis, ils te disent, mais tu manges quoi par des salades ? Tout le reste, aussi. Sauf qu'il n'y a pas de viande.
Ah non, mais la gastronomie végétarienne, végane est ultra développée. Oui. Et, si jamais vous vous intéressez à la cuisine, franchement, allez voir de ce côté-là parce que c'est extrêmement intéressant.
Totalement.
Et du coup, on rejoint quand même un sujet qu'on a abordé en introduction, qui est la déconstruction des gens.
Eh oui.
Puisque, en fait, on leur fait goûter sans qu'ils ne le sachent vraiment un substitut de viande. Ils aiment alors qu'ils pensaient ne pas aimer.
C'est ça. Alors qu'au départ, ils pense même que c'est pas possible de manger des lasagnes si dedans il n'y a pas de viande, quoi. Ouais. Alors effectivement, y a des lasagnes bolo, chorizo et compagnie, ou même des risottos de chorizo que j'adorais manger, que je ne mange plus. Par contre, j'adapte. Mmh. Voilà.
Ok.
Restons sur la food, parce que je suis gourmande. Si j'étais une pâtisserie ou un dessert ou une friandise, je serais, c'est très bateau, mais un moelleux au chocolat. Parce que c'est réconfortant, parce que c'est gourmand, parce que ça fait du bien. Pour moi, c'est vraiment le gâteau presque du bonheur. Rien de compliqué, ça se fait hyper facilement. Tu as un petit coup de mou, tu te fais un moelleux au chocolat, tu achètes ta tablette de Nestlé dessert, chocolat noir au lait, à toi de voir. Et en fait, tu kiffes ta vie, quoi. Et puis, c'est tout. Et j'adore cette recette. Et voilà, j'en mange assez souvent quand même. Surtout quand on arrive en automne.
Oui, oui, moi aussi, hein. Quand t'as une bonne recette.
C'est
mais
clair.
On se rejoint beaucoup sur la food. Je t'avoue que si je fais un deuxième podcast, je pense que ce sera sur ce sujet-là.
Ah non, mais c'est trop...
Je te réinviterai. Bon.
Oui, avec grand plaisir.
Ok, très bien.
Si j'étais un animal, eh bien, je serais un chat. Alors, déjà parce que c'est mon animal préféré, parce que je vais avoir 31 ans et que sur mes 31 années de vie, je n'ai jamais passé plus de quelques semaines sans chat. Alors, quand je dis quelques semaines, c'est genre un chat qui décède, moi qui demande à ma mère d'en avoir un autre. Donc, ça a été vraiment très rapide. Ou alors, quand tu pars en vacances et que tu ne pars pas avec ton chat, tu vois. Mais j'ai toujours eu des chats. C'est vraiment mon animal de compagnie, mon animal préféré. Et j'adore, en fait, parce que je trouve que tu peux en tirer de belles leçons par l'indépendance qu'a le chat et par sa façon de vivre en total accord avec lui-même. Tu vois, alors c'est pas un être dépourvu d'émotions, c'est pas un animal qui a... Les chats ont aussi un peu cette réputation de t'es chez eux, ils font ce qu'ils veulent, ils sont ingrats, blabla, un peu tout ça, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus, parce que quand le chat est en confiance avec son humain, en fait, t'es son humain et il est prêt à tout. Enfin, moi, je vois mon chat, elle sent quand je vais pas bien, quand je suis malade, quand il y a de la tristesse, de la colère. Tout de suite, elle vient, qu'est-ce qui se passe ? Elle est hyper protectrice. Quand il y a des personnes qu'elle ne connaît pas, elle grogne. C'est un chat de gardiennage, j'en sais rien. Et il y a une vraie relation, un vrai lien et je trouve que c'est hyper fort. Et en même temps, elle est totalement autonome, indépendante. Alors oui, elle râle pour que j'ouvre la porte pour aller dehors. Mais bon, effectivement, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. C'est comme ça. Elle est libre, en fait. Et elle fait exactement ce qu'elle veut. Et puis, c'est rigolo parce qu'elle est réglée pour avoir son petit lait le matin. Elle attend que moi parce que c'est qu'il n'y a que moi qui donne du petit lait depuis sa naissance. Et à 19h, elle est là pour le pâté, mais genre vraiment réglée comme une horloge où tu partir 18h30, c'est-à-dire dans 20 minutes, elle va commencer à faire du bazar dans la maison pour dire « Hey, je suis là, m'oubliez pas les gars, c'est dans 30 minutes ». Voilà. Et donc moi, j'adore parce que ouais, c'est, elle vit totalement en accord avec elle-même, elle fait sa petite life, elle demande rien à personne en dehors de manger, sortir. Mmh. Et non, c'est cette autonomie, cette liberté et le fait... je pense qu'il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Agir et penser comme un chat ». Alors je me souviens plus du tout l'auteur, je l'ai lu ce livre, je l'ai dans la bibliothèque d'ailleurs, très agréable et vraiment porteur de leçons, notamment du coup sur être en accord avec soi-même, faire ce qu'on a envie de faire là à l'instant T, se foutre la paix, et puis c'est le chat. Donc la recollecture déjà.
Ouais, tout à fait, que vous retrouverez dans les ressources, bien entendu. Merci Justine.
De rien. Si j'étais une série télé ou un film, alors, je serais la série Grey's Anatomy. Alors, au-delà d'être totalement accro à cette série, je trouve que tous les personnages sont singuliers et ils ont une vraie force. Je trouve que c'est une série dans l'humanité, mais de ouf. Certes, c'est une série médicale, mais les relations que les personnages ont entre eux, leur vie aussi, je trouve que ça a toujours... on peut toujours tirer une leçon d'un épisode de Grey's Anatomy, tu vois. Pas que sur du love, pas que sur la médecine ou j'en sais rien, mais... Enfin, tu vois, t'as des personnages qui sont très tenaces et d'autres qui sont peut-être un peu plus bienveillants, etc. Enfin bref, et donc du coup, je trouve que... Il y a toujours un message derrière un épisode de Grey's Anatomy et je trouve qu'on peut toujours en tirer les leçons. Et j'ai toutes les saisons en DVD puisque je les regarde une première fois et ensuite je les achète pour pouvoir les regarder plusieurs fois. Et c'est mon rituel.
D'accord.
Et du coup, j'adore regarder par exemple telle saison ou tel épisode parce que là, j'ai besoin de décompresser ou là, j'ai besoin de chouiner aussi. Il y a des épisodes, je sais, je pleure, hein, tu vois. Et donc, du coup, ouais, c'est ma petite Madeleine de Proust. Et donc, j'aime les leçons qu'on peut en tirer, la force des personnages et l'humanité qui est à l'intérieur.
Ok.
Voilà.
Ok, très intéressant. T'aimes bien tirer des leçons, quoi.
Complètement.
De manière générale.
Ouais, complètement. Et puis, il faut dire que quand même, hein, la déclaration. D'amour que Meredith fait à Derek, etc., où elle met les petites bougies en dessin de maison sur leur terrain, t'es là genre « Moi, si je veux, j'ai pas assez de bougies, mais je veux. » Oui, un peu fleur bleue, là.
Oui, effectivement. Après, moi, je trouve que leur relation est beaucoup trop complexe. Moi, j'aspire à plus de... platitude. Enfin, platitude.
Tout dépend dans quelle saison.
De facilité. Oui, certainement. J'avoue que j'ai pas vu les dernières saisons. À un moment donné, j'ai binge-watché Grey's Anatomy, mais je sais plus à quelle saison je me suis arrêtée. 7, 8, quelque chose comme ça. 9.
Aujourd'hui, on a 18.
Ok.
Et encore hier, je vérifiais en me disant, est-ce qu'il n'y a pas un nouvel épisode? Mais non, 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 il n'y en a pas. Pas encore. Voilà. Si j'étais une plante, une fleur ou un arbre, j'ai choisi... Alors, j'ai beaucoup hésité entre l'aloe vera et le bouleau. Mais en fait, je me suis rendu compte que les bienfaits étaient assez similaires. Je vais expliquer pourquoi.
Oui, ça nous intéresse.
Le bouleau, en fait, c'est vraiment... Enfin, si j'étais un arbre, ce serait le bouleau. Parce que je trouve que sa grandeur et son ampleur imposent le respect. Mais pas le respect genre c'est moi, tu vois, dur, rude, rustre, pas du tout comme ça. C'est un arbre qui peut être très grand et qui est imposant par la superficie que peuvent avoir ses branches. Mais en fait, après, c'est plein de petites branches qui retombent un peu comme grand-mère feuillage, tu vois. Enfin, ça peut vraiment être comme ça. Et je trouve qu'à l'intérieur ou dessous un bouleau, bah, tu retrouves l'immensité de la nature, le respect de cette dame nature-là. Et en fait, je trouve que bah, moi, c'est mon safe place. Tu vois, moi, j'ai mon hamac sous mon bouleau dans mon jardin. Et j'adore être d'accord. Dessous parce que c'est, ouais, je sais pas, une sorte de connexion où le vivant était petit et cet arbre est grand. Mais je sais pas, je trouve que c'est un endroit où tu es bien, où tu peux être en détente. Et ouais, c'est mon lieu d'ancrage, en fait. Et ouais, ce truc de l'ampleur bienveillante, tu vois, comme s'il y avait des bras doux sous lesquels tu pouvais aller. J'aime beaucoup ça. Et on dit de moi que je suis une personne aussi enveloppante dans la vie. Je prends les gens avec moi, apparemment. Et j'aime faire ça aussi. J'aime prendre les gens que j'aime autour de moi et en prendre soin, être là pour eux. Et du coup, je pense que le bouleau pourrait aussi représenter un peu ça, parce que quand moi, je suis dessous, c'est le sentiment que j'ai. Voilà.
Ok. C'est vrai que dans tes stories sur Instagram, des fois, on te voit l'été, enfin, quand les beaux jours arrivent dans ton hamac.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, en plus, le bouleau, alors, il y a... Il y a aussi des vertus au niveau de la santé, de par la sève de bouleau, où en moment d'intersaison, on peut faire des cures de sève de bouleau. C'est un peu détox. Alors, disclaimer, clairement pas pour perdre du poids. C'est détox, intersaison, au niveau bah, du foie, du transit, etc. etc. Donc, c'est un arbre aussi qui prend soin des autres quand bah, on a envie de faire une cure, etc. Et donc, j'hésitais avec l'aloe vera parce que j'adore cette plante qui peut faire des fleurs. Et parce qu'en plus, il y a des vraies vertus et des vrais bienfaits de fou. C'est-à-dire que moi, je me soigne uniquement à l'aloe vera, presque. Alors, bon, en dehors de quand tu dois prendre des médicaments, mais un bobo, une piqûre, un coup de soleil, sur mon corps, mon visage, c'est de l'aloe vera. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'ai une belle plante et je me sers avec parcimonie parce qu'à chaque fois, je suis là genre, pardon, je te prends un peu de... Oui, parce que vu que j'en prends soin de ma plante, j'ai du mal à lui prendre des trucs. Mais voilà, c'est l'aloe vera parce que je trouve que c'est beau. Il n'y a pas besoin de trop d'entretien. C'est pas une plante compliquée. Je ne suis pas une personne compliquée dans la vraie vie. Je prends soin des gens, elle prend soin de moi, etc., etc. Voilà.
Belle analogie. Ok. Ouais, j'avoue, moi, l'aloe vera, j'utilise beaucoup sur ma peau, sur le visage. Et effectivement, quand j'ai une brûlure ou quoi, mais c'est quotidien. Quotidiennement, j'applique de l'aloe vera sur ma peau, parce que pareil. C'est vraiment pouvoir hydratant, cicatrisant.
Ouais, repulpant, tout ça. Totalement.
Ouais. Ok. Ben, merci pour ce petit portrait chinois qui nous en apprend beaucoup sur toi, au final. Et on va passer à la suite. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui... Du coup, tu as lancé un business de formation et d'accompagnement dans la création de podcasts, dans le développement business. Mm-hmm. Tu intègres aussi une note de design humain dans tes formations et dans ce que tu proposes. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours qui t'a amené à cet endroit? Alors, tu en as déjà un tout petit peu parlé, si tu veux compléter.
Oui. Alors, je dis tout le temps aux personnes que j'accompagne, aux personnes qui me connaissent d'un peu plus près, que... je ne peux rien faire avec les gens si ce n'est pas déjà testé, transpiré, stressé et approuvé par moi-même. Et notamment au niveau du design humain, où au départ, j'ai rejoint la formation de Arzu, de Dis-moi ton design, qui était donc une formation sur un an, voire un peu plus d'un an. pour moi, non pas pour utiliser cet outil avec mes clients et mes clientes, non pas pour transmettre, etc. C'était pour moi à un moment où, bah, dans mon entreprise et dans ma vie, je me sentais pas bien, je trouvais pas ma place, je savais pas quoi faire, je me comparais vachement aux autres, je me sous-estimais aussi, j'étais très dans oui mais pourquoi eux et pas moi, tu vois, et du coup je vais faire comme eux pour, mais pourquoi ça marche pas chez moi, tu vois, et du coup je me rendais bien compte qu'il y avait un truc qui clochait, et en fait entre guillemets moi qui clochais et de ce que j'étais en train de faire. Et donc, bah, j'ai voulu en apprendre plus sur moi-même. Et du coup, bah, cette formation a fait qu'il y a une sorte de réalignement. Et j'ai aussi réaligné mon entreprise. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai ajouté du Human Design dans certains de mes accompagnements, donc notamment dans Réveille ton Biz, ou alors simplement avec le manuel HDN Biz que je fais, donc qui est un manuel PDF et audio que je crée pour la personne qui a envie d'avoir sa lecture approfondie. Et à travers ce manuel-là, je réponds à une problématique business, parce que moi, c'est ce que je fais, en fait. Voilà, donc tout ça pour dire que j'en suis là aujourd'hui parce que quand, en fin 2019, je me sentais mal, comme je le disais, je détestais mon entreprise, mes clients, j'avais des impayés, etc., etc., j'ai tout stoppé. Et je me suis dit, en fait, il faut que je retrouve un truc qui me passionne, faut que je m'amuse, en fait, faut que je reprenne du plaisir, et faut que je retrouve, en fait, cette envie d'entreprendre et cette envie de construire quelque chose qui me plaît. Et donc, du coup, j'ai lancé mon premier podcast, Just In Tuned. À ce moment-là, Live Mentor me fait un appel de pied pour que je devienne mentor chez eux en formation marketing digital, copywriting, side project et freelance. Et en fait, pendant un an, je n'ai fait que du podcast et que de l'accompagnement à l'entrepreneur. Et en fait, c'est là où je me suis le plus amusée, vraiment. Et c'est fin 2020 que là, j'ai dit, OK, faut que je me réapproprie mon entreprise. J'ai refait ce que tu vois aujourd'hui, en fait, pour dire aux gens, bon, en fait, ouais, je suis mentor business et podcast. Et c'est ce que je fais et c'est ce que je vais continuer de faire. Et voilà, en fait, tout a été assez naturel en termes d'avancement. Et en fait, voilà, tout ce que je fais avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est forcément parce qu'avant, j'ai pu éprouver, essayer, apprendre quelque chose pour pouvoir le transmettre. Et c'est pour ça que je me sens bien dans cette peau de mentor et que je ne m'appelle pas coach, même si en réalité, dans le mentorat, il y a quand même du coaching. Mais il peut y avoir, c'est pas obligatoire, mais c'est surtout, ouais, c'est la transmission qui m'importe le plus et ce qui me fait le plus vibrer. Et faire gagner du temps à des personnes qui avancent et éviter de qui passent par les mêmes encombrures que moi j'ai pu vivre ou passer, quoi.
Ok. Alors j'ai une question. Mm-hmm. Tu parlais du lancement de ton podcast et du fait que Live Mentor t'a contacté. Mm-hmm. Est-ce que c'est grâce à ton podcast que Live Mentor t'a trouvé ? Enfin, en gros, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou non. Comment est-ce qu'ils t'ont trouvé ?
Ils m'ont trouvé parce qu'en fait, on ne s'était pas perdu. Je suis une ancienne élève Live Mentor 2016-2017. Okay. À ce moment-là, je me formais beaucoup toute seule en auto-formation. J'ai passé un diplôme attaché de presse à distance. J'étais en auto-formation parce que reconversion professionnelle. Je ne voulais plus être salariée, je n'avais pas trop quoi faire. Et du coup, là, j'étais vraiment je prenais à fond dans mon cerveau, je testais plein de choses. J'avais pas encore lancé mon business, je savais que je voulais me lancer, je savais pas trop faire quoi. Donc en fait, j'apprenais plein de choses pour tester chez des gens et savoir à quel point je peux aider et surtout à quel point moi je peux me sentir bien là-dedans. Et donc en fait, c'est en été 2017 que j'ai suivi la formation freelance pour lancer ma propre entreprise parce qu'il me restait 6 mois de chômage. Et que à un moment donné, il faut y aller, quoi. Tu manges pas de l'air et de la reconnaissance, et donc voilà, il faut payer ton loyer. Et du coup, j'ai rejoint cette formation là, et donc j'ai lancé mon entreprise. Et puis derrière, j'ai fait la formation copywriting pour m'aider à mieux communiquer sur mon site, dans mon business, etc. Et puis on s'est pas perdu de vue. J'ai participé à plusieurs trucs Live Mentor, j'ai intervenu plusieurs fois pour eux. Et puis voilà, ils étaient en recherche de mentors, j'étais dans le coin. Okay. Et mon parcours a fait que du coup j'avais quand même de l'expérience dans l'entrepreneuriat et j'avais suivi ces formations là, donc go mentorer.
Ok, d'accord, c'est très clair. Et du coup, j'ai une autre question aussi par rapport à ce que tu disais. Tu distingues mentor et coach. Mmh. Alors du coup, c'est quoi la différence pour toi?
Alors, c'est vraiment ma vision des choses. Pour moi, le mentor est une personne qui est là pour regarder avec toi les choses, certes. C'est un peu le conseiller. On réfléchit ensemble. En tout cas, c'est vraiment la posture. Moi, je dis aux personnes que j'accompagne, je deviens ta business pote, en fait. On travaille ensemble. Mais c'est moi, ma posture. Demande à un ou une autre mentor, ce sera sans doute différent. Le coach, lui, souvent, il a une formation de coach. Alors certes, je me suis formée sur la posture de l'accompagnant, etc. Mais il y a quand même des principes, des théories qui appartiennent à l'univers du coaching. Et c'est pas que je veux pas, c'est que c'est pas là où est ma place, en fait. Et j'aime le terrain, j'ai des idées et je regarde les choses, j'observe les choses et j'aime dire les choses, tu vois. Et j'aime qu'on réfléchisse à deux, alors que le coach, lui, il est moins dans ce rôle un peu action, transmission, tu vois. En tout cas, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Peut-être que je me trompe totalement et que c'est totalement faux. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ma vision et c'est la raison pour laquelle je suis mentor, quoi.
Ok. Alors, je pense pas que tu te trompes du tout. À mon avis, y a une ambiguïté. Mmh. Moi, c'est des questions que je me pose depuis un moment aussi, puisque j'accompagne des gens et j'ai envie de les accompagner, mais j'ai une grosse réticence à m'auto-appeler ou me faire appeler coach. Mmh. Parce que comme tu dis, bon, il y a des formations. Alors, t'as plein de coachs qui n'ont pas suivi de formation, tu en as d'autres qui en ont suivi, il paraît qu'elles sont très inégales. Enfin bon, c'est encadré, mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Et c'est vrai que moi j'ai cette réflexion voilà, autour du coach, de l'accompagnant. C'est vrai que du coup le terme mentor est très intéressant, comme tu dis, partage d'expérience, partager son cerveau, réfléchir à deux, c'est très intéressant. Mais ouais, je pense qu'il doit y avoir pas mal de visions des choses qui existent.
Oui, totalement. Mais justement, pour répondre à ces questions-là, moi j'ai suivi la formation de Laura Besson de Bien dans ta boîte, qui est une formation sur le rôle et la posture de l'accompagnant. Et du coup, y a les outils, on parle de psychologie positive, on parle de l'étude de la demande, de la reformulation, de la posture, des énergies. Enfin, c'est vraiment une courte formation, mais très complète. Et Laura est absolument extraordinaire. Et du coup, j'ai pu créer ma mallette aussi de l'accompagnatrice. Et parce que maintenant, j'ai plus d'outils, parce qu'avant, je m'appuyais beaucoup sur des outils, on va dire, marketing, tu vois, outils terrain. Bah, en fait, il y a d'autres choses, parce que tu as aussi une responsabilité absolument énorme que d'accompagner un humain. Donc, t'es pas en train de juste d'accompagner un business. Il y a un humain qui est dans ce truc-là, avec des croyances, des blocages, mais aussi des forces et des talents. Et donc, à toi de prendre les bons outils, d'être là au bon moment. C'est pour ça qu'aussi, il y a un peu de coaching, mais c'est piocher dans ton savoir-outil, mais aussi dans ton savoir-faire et savoir-être. Et moi, je me sens plus à l'aise avec cette casquette de mentor qui me permet d'être agile et de les piocher, en fait, dans ce que je vois, ce que je sais et ce que je sens. Et le coach, je sais pas, c'est... Non, c'est pas moi.
Ok, très bien. On ne va pas te forcer, ne t'inquiète pas.
Merci.
Non, mais c'est, comme tu dis, c'est super intéressant. Et puis, c'est vrai que cette notion de posture pose question. Mm-hmm. Enfin, je pense que c'est très important d'y penser. Moi, après, la chose qui m'attirait dans le coaching, c'est le fait que, de manière générale, si tu suis une formation, que tu es certifié, généralement, il faut ensuite que tu fasses partie d'un groupe de coachs avec lesquels tu vas te former tout au long de ta vie, qui vont te... Mince, comment est-ce qu'on dit ?
Superviser.
Superviser, tout, exactement. Et avec lesquels tu vas pouvoir discuter un peu aussi éthique, et tu as une charte du coach. Mm-hmm. Parce que vraiment, dans l'accompagnement, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le côté un peu... Alors, Il y a le côté gourou, déjà.
Les dérives
le
du coaching, totalement.
Voilà, d'aliéner un peu les gens que tu accompagnes. Et il y a le côté aussi, ne pas savoir déceler si une personne a besoin d'un accompagnement psychologique ou psychiatrique, tu vois, et déceler ça à temps et les renvoyer vers des personnes compétentes pour ça. Donc, ouais, moi, il y a des dangers aussi qui sur lesquels j'ai envie de rester très, très vigilante. Mais dans ma posture d'accompagnant.
Totalement, c'est ça. C'est, mais que tu sois mentor, coach, consultant, ou j'en sais rien, à partir du moment où tu as un humain en face de toi, tu peux être amené à déceler justement des problématiques que toi, tu ne peux pas gérer. Que tu ne peux pas, parce que tu n'as pas soit les outils, soit la capacité, soit c'est un truc que tu es toi-même en train de régler et donc tu ne peux pas accompagner une personne qui vit la même chose que toi, tu vois. Mais quand on parle aussi de gourou, il y a des coachs qui sont certifiés et qui sont capables de répondre simplement la réponse est en toi, la clé est en toi. Et te faire payer des accompagnements à 150K l'année. Parce que, et en fait, il y a énormément de dérives. Un peu moins, j'ai l'impression, il y a eu pas mal, il y a eu une espèce de montée un peu new age du coaching là, entre 2020-2021. Alors je sais pas si c'est parce que tout le monde était enfermé chez soi que d'un coup il y a un espèce de truc spirituel marketingo pas ouf mais on en trouve encore et il faut faire hyper attention et qu'une certification en fait ne prouve rien. Parce que si c'est un manipulateur narcissique, pervers, j'en sais rien, avec un ego trip de ouf qui est certifié, qui est coach, coach de vie business ou j'en sais rien, il peut très bien être gourou et juste très mal accompagné et en fait foutre en l'air des gens quoi. Enfin, c'est... Et toi qui écoutes le podcast MetaChuck, on est d'accord que c'est ce dont il est question la plupart du temps. Quand tu as des retours d'expérience de personnes, qu'on suit des coachings ou des... ou des comment ça s'appelle, des séminaires où en fait bah au final ça fout des gens en l'air quoi.
Ouais, complètement. Je vais continuer mes questions, donc en fait je vais segmenter en deux parties les prochaines questions. On va d'abord parler de ton organisation au quotidien, ton organisation dans ton entreprise, et ensuite on va parler mindset, donc état d'esprit, voilà comment tu te remotives.
Yes.
Alors, au niveau organisation, en gros, qu'est-ce que tu utilises régulièrement ? Ça peut être des outils, ça peut être des mantras, ça peut être des systèmes pour, en gros, tes outils chouchou qui restent malgré les années et l'expérience. Toi qui aimes bien tout crash-tester.
Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai viré tous les outils papier, parce que je me retrouve avec des post-it, des bloc-notes, des agendas, des cahiers, des machins, trop, avec des idées de partout, des trucs de partout, bref, tu t'y perds. Donc j'ai viré tout ce qui était physique, papier. Aujourd'hui, j'utilise exclusivement Notion ou Notion. J'utilise Toggle pour me timer. J'ai besoin de savoir où va mon temps, mon énergie. J'ai besoin de savoir pourquoi ce truc ne se développe pas et donc me dire que c'est parce que je n'y ai pas passé suffisamment de temps. J'ai besoin de voir là où est-ce que j'ai passé trop de temps. Donc, prochaine étape pour déléguer, etc. ou simplifier ou j'en sais rien. Bref, c'est vraiment une boussole de ma vie, de mon énergie et qui m'aide à prendre des décisions pour moi et mon entreprise. J'utilise toute la suite Google, donc, qu'on appelle Workspace. Donc j'ai viré genre Calendly, compagnie, etc. Tout est sur Workspace. Donc j'ai constamment ouvert sur mon ordinateur Google Agenda et Notion. Google Agenda parce qu'en fait, c'est là où il y a mes blocs avec mes gros temps, tu vois, en fonction de la journée, en fonction même de l'heure de la journée. Et en fait, Notion parce que j'ai ma to-do qui est associée à ce bloc de temps. Voilà. Drive dans son ensemble, donc majoritairement Google Doc et Google Sheet parce que je ne fais pas de présentation PowerPoint. Donc voilà. Et quoi d'autre je dirais que c'est déjà pas mal parce qu'en fait, même la boîte mail où il y a Julie et Aglaé qui sont aussi dans cette boîte mail-là, on utilise Gmail et chacune a sa justine@justinarma.com, etc. Donc, on a nos libellés, on a nos dossiers, etc. Donc, tout se fait dessus. Donc, tu vois, j'ai viré Calendly qui coûtait de l'argent alors que maintenant, tu prends rendez-vous directement dans mon Google Agenda qui est optimisé pour prendre des rendez-vous pour, faire un point sur ton business, par exemple, ou réserver un rendez-vous podcast. D'accord. Spark, qui coûtait de l'argent, etc., etc. Parce que plus tu as de gens, plus tu dois mettre de l'argent dans ton forfait, etc. Pareil, viré. Donc, en fait, Workspace a permis de simplifier mes outils et de baisser mes dépenses.
D'accord. Et donc, du coup, le fait de virer Calendly et d'utiliser Google Agenda, ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec un compte gratuit, ou alors est-ce qu'il faut forcément que tu aies un compte payant Workspace ?
Je ne pourrais pas répondre à cette question, je ne sais pas, parce que moi, vu que de toute manière, il fallait qu'on ait une boîte mail pour trois, on est passé directement à la suite Workspace pour pouvoir faire ça. Mais tu vois, par exemple, pour le podcast, bah, j'ai encore mon Zoom, parce que Google Meet, comme on l'a vu toi et moi, c'est pas du tout optimisé pour. Donc il y a encore des outils, et c'est dommage d'avoir encore trop d'outils pour juste un truc. Mais bon, j'ai bon espoir qu'à un moment donné, on puisse vraiment tout centraliser.
Ok. Bon, moi, de toute façon, je te rejoins totalement. J'utilise Notion, j'utilise Toggle pour traquer mon temps. Alors, pour l'instant, c'est principalement pour mon client, pour savoir exactement sur quel projet je passe du temps. J'ai du mal à me l'appliquer à moi-même, mais je pense que je vais bientôt sauter de pas.
Et moi, il y a tout. Et puis, tout. Sauf les moments pause bien-être. Où là, pour le coup, alors des fois, je me dis, mais il faudrait quand même que je sache combien de temps je prends soin de moi, etc. Mais en fait, quand je coupe, tu vois, quand je vais lire ou quand je vais faire les trucs, je suis pas là à avoir envie de me timer. J'ai envie de passer mon moment, tu vois.
Ouais.
Donc, et j'en discutais justement avec Stéphanie de J'aime la paperasse en lui demandant, mais toi, tu te times aussi quand tu prends soin de toi ? Elle me dit, bah non, dans ces cas-là, tu te fliques de partout, quoi. Mais sinon, il y a tout. Il y a quand je suis en point avec mon équipe, quand je suis en train d'enregistrer un podcast, donc c'est enregistrement et montage parce que je fais les deux en même temps, quand je suis en train de travailler sur la communication de mon entreprise, quand je suis en train de gérer mes mails, quand je suis pour tel ou tel client, quand je suis en visio avec cette cliente, quand je time tout en fait. Et à la fin, bah, j'ai mon récap d'heures et les moments où j'ai passé le plus de temps. Et du coup, ça permet aussi de calculer bien sa rentabilité parce que par exemple, au nombre d'heures, t'as fait quoi comme chiffre d'affaires et comment est-ce que tu t'es rémunéré et du coup, combien ça vaut, on va dire en termes de rentabilité, tout ça. Donc non, c'est une vraie boussole.
Ah ouais, non, mais au-delà de ça, en plus, j'en discutais là, parce que j'ai dispensé une formation de gestion du temps la semaine dernière, donc j'en discutais avec les stagiaires, je leur disais, et c'est vrai que c'est super intéressant aussi de savoir combien de temps tu bosses, combien de temps tu peux bosser par jour, puisqu'on n'est pas toutes égales, tous égaux face à ça. Je leur disais, tout le monde ne peut pas bosser 8 heures par jour en étant concentré, en faisant du travail de qualité 8 heures par jour. Je leur dis, moi, je peux le faire, mais par contre, si je le fais plusieurs jours d'affilée, tu peux être sûr qu'après, je vais avoir besoin de jours de repos parce que je vais être complètement HS.
Oui.
Et c'est vrai que ça, en fait, on le dit pas assez. C'est vrai que moi, elles écarquillaient des yeux comme ça quand je leur disais ça. Elles me disaient, mais merci de nous avoir dit ça, parce qu'en fait, elles culpabilisaient à fond de pas bosser 8 heures par jour, exemple.
Et même pour aller plus loin, puisque les personnes qui nous écoutent sont entrepreneurs, entrepreneuses, en fait, apprenez à vous connaître pour savoir à quel moment vous avez plutôt envie ou vous êtes plus efficace à faire telle chose. Moi, clairement, je peux pas faire de la com en fin de semaine. J'ai plus une once d'idées, quoi. Mon cerveau est essoré par 4 jours de créa ou de contact ou de réflexion ou d'idées. Le vendredi, non, je peux pas enregistrer un épisode de podcast, je peux pas, je suis caca chien, tu vois. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ? Bah, je sais que c'est le lundi. Et le lundi, j'ai mon bloc, créa de contenu, podcast, vérif, orga, etc., etc., tu vois. Je sais aussi que je suis très efficace plutôt du matin et pas du soir, même si là où on enregistre, c'est 18h37. Mais c'est un agréable moment avec toi, donc c'est cool. Et je sais que c'est easy, c'est fluide, tu vois. T'es pas en train de me demander des trucs qui me demanderaient 2 neurones en plus, tu vois. Mais du coup, pareil, tu peux être sûr que tout ce qui va être productivité, efficacité et création, c'est le matin. Et j'adore me lever tôt le matin. Pour avoir ce temps, je suis un peu diesel. Moi, j'ai besoin d'un temps de démarrage, mais à 10h, mais jusqu'à 13h30, 14h, c'est l'autoroute au taquet. Et par contre, après, il n'y a plus personne. Donc après, je me mets des choses beaucoup plus simples Je vais pas mentorer une personne en plein milieu de l'après-midi. Mon cerveau, ou alors il faut que j'aille au café à fond, quoi, tu vois. Ou faire une petite sieste juste avant, parce que je sais que je suis pas autant efficace que le matin. Donc d'apprendre à se connaître, en fait, donc là, on peut parler chronotype, hein, globalement, c'est savoir à quel moment dans la journée on est le plus efficace, productif, créatif, etc. Et puis là où ça aussi, je trouve c'est important de connaître son design, c'est que du coup, on sait... Où est-ce qu'on a une jauge énergétique ? À quel endroit elle est aussi ? Et moi, tu vois, je suis générateur et j'ai besoin d'étapes, de structuration. J'ai besoin d'avoir des choses, des steps pour me réactiver mon énergie, ma motivation, me permettre d'aller au bout de mon projet. Donc, en fait, quand je fais ma gestion de projet, j'ai besoin de steps. Et du coup, je sais que c'est une tâche à la fois et c'est comme ça que je fonctionne. Et d'autres personnes ne fonctionnent pas du tout comme ça. Donc en fait, tout est structuré en fonction de mon fonctionnement naturel, mes envies, mon énergie, et l'heure qu'il est, et le jour qu'il est même aussi.
Ouais, et puis allons plus loin. En tant que femme, on fonctionne aussi selon notre... là où on en est de notre cycle menstruel.
C'est ça.
C'est-à-dire que la semaine avant les règles, on sait qu'on est plutôt renfermé sur nous, qu'on va remarquer tout ce qui ne va pas, que ce n'est pas le moment de prendre des décisions. C'est le moment de noter ce qui ne va pas et d'attendre une ou deux semaines pour ensuite éventuellement prendre les décisions.
C'est ça, totalement.
Mais du coup, ça aussi, c'est... si on va plus loin dans le se connaître et faire ce qu'il faut quand il faut.
Ouais, totalement. Mais c'est ça aussi, cette liberté qu'on peut prendre dans sa propre organisation, sa propre vie, son quotidien, en fait. Et alors, j'ai pas envie de sortir la phrase bateau du gourou, mais en fait, c'est nous, notre propre clé de la réussite à partir du moment où on apprend à se connaître, on s'écoute et on applique en fonction de soi. Tu vois, alors, je ne suis pas en train de dire de se délester de toutes les contraintes et obligations et de perdre toute responsabilité de la vie du commun des mortels. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je dis juste qu'on peut faire la part des choses, trouver des compromis et continuer d'avancer en étant mieux et pas être en train de subir ou se dire « Ah là là, mais non, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est mon premier jour de règle, j'avais oublié, j'ai une journée de 14, machin, je sais pas quoi. » Non, d'être plutôt en connaissance et en conscience pour prendre les meilleures décisions dans la mesure du possible, quoi.
Tout à fait. Ok, alors du coup, je vais te poser la même question, mais cette fois-ci, dans le volet mindset, état d'esprit. Quels sont tes outils, mantras, livres, podcasts éventuellement, que tu utilises régulièrement pour avoir un état d'esprit qui te motive? Voilà.
Alors, j'ai... Comment dire ? J'ai pas de outils précis ou de ressources ou de livres, de mantras, de podcasts. Disons que, en fait, je n'hésite jamais à me faire accompagner, que ce soit par un mentor ou un coach ou même par mon thérapeute. J'ai toujours fait ça de toute ma vie. Tu vois, encore une fois, je vais avoir 31 ans. Je pense que j'ai peut-être 27 ans de thérapie. Alors, évidemment, pas avec le même thérapeute. Mais j'ai toujours travaillé sur moi-même, mon cerveau, mon mental, mon corps, mes émotions, mon ressenti. Je suis mon meilleur outil, entre guillemets, en tout cas ma meilleure maison, et j'essaie d'en prendre le plus soin dans la mesure du possible. Et donc ça passe par... je m'entoure de personnes qui vont pouvoir m'aider à dépasser quelque chose, que ce soit une problématique personnelle, une croyance, une émotion trop vive, un traumatisme, mais aussi d'un point de vue business où quand je sens que j'ai atteint mes propres limites parce que je ne vois pas où aller ensuite ou comment faire pour dépasser ça, eh bien je me fais accompagner. Et ça, c'est le cas tout le temps, en fait. C'est ça, d'accord, en fait. C'est là où je puise... J'ai pas envie de dire ma ténacité, parce que non, je pense que c'est parce que je suis tenace que je décide de me faire accompagner. Mais c'est là où j'apprends le plus de choses et c'est là où en fait je bosse mon mindset, parce que je sors de ma tête, je sors de mon mental pour aller questionner et travailler sur ces questions qui peuvent me pourrir la vie, quoi. Voilà.
Ok. Donc en fait, presque en permanence... T'es accompagnée, c'est ça que
totalement,
tu nous dis?
Oui, totalement.
Okay.
Et ça me permet aussi de rebondir sur... tout à l'heure, on disait que les coachs se faisaient aussi superviser, mais quoi qu'il arrive, quand t'es accompagnant, c'est important d'avoir une personne avec laquelle tu dois discuter de cas, entre guillemets, qui ont été peut-être un peu plus difficiles. Ça fait partie aussi de sa posture de l'accompagnant. Et donc, du coup, alors oui, j'en parle avec d'autres, on va dire, amis mentors, où on se fait des débriefs, machin, on avance aussi là-dessus pour monter en compétences, expérience, expertise, tu vois. Mais c'est hyper important. Et donc, pour pouvoir bien accompagner moi-même, je me dois d'être ma meilleure accompagnante aussi. Donc, je n'hésite pas à me faire accompagner pour, non pas être la meilleure version de moi-même, je déteste cette phrase, mais en tout cas, être une meilleure personne pour moi et pour les autres.
Ok, ah, c'est super. Alors, c'est très intéressant. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut vraiment pas rester isolé, parce que discuter avec les autres, ça permet de débloquer généralement des situations. Je suis totalement d'accord sur le fait de se faire accompagner quand on ressent le besoin. Ça, c'est indéniable. Moi, je le vis un tout petit peu différemment de toi, parce qu'effectivement, moi aussi, je me fais accompagner par psychologue, psychiatre, coach. Enfin, ça dépend des besoins et des envies du moment. Mais par contre, moi, j'ai besoin de ces moments de solitude entre les accompagnements. J'ai vraiment... Je vais avoir une problématique, je vais voir qu'en discutant avec d'autres entrepreneuses ou avec mon entourage, j'arrive pas à gérer. Bon, là, je vais aller me faire accompagner. Et ensuite, j'ai besoin de temps, tu vois, pour digérer tout ça, pour mettre en application, jusqu'à tomber à nouveau sur un os ou une problématique. Et pouf, là, je vais me faire accompagner. Mais j'ai toujours ces moments où j'ai l'accompagnement, rien, enfin, moi... accompagnant, rien. Enfin, voilà, du coup, moi, j'espace.
Oui, je comprends totalement. Moi, cette année, je me suis fait accompagner par deux personnes, Anaïs Feltro, pour dépasser mon blocage. En fait, je devais passer en société depuis un petit moment, j'arrivais pas à passer le cap. J'étais totalement bloquée par ce nouveau fonctionnement, la structuration, les finances, tout ce que ça pouvait impliquer. Et donc, du coup, en fait, je rétro-pédalais, je me tirais une balle dans le pied et je mettais en danger même mon entreprise parce que je ne prenais pas cette décision-là, en fait. Et j'avais besoin du coup de pied de Anaïs et de ses feedbacks et parce qu'elle est passée par là, donc... Donne-moi et on avance,
bien
en
sûr.
Fait.
Bien sûr.
Ensuite, je me suis fait accompagner par Sonia Lerambourg. Alors, pour le coup, c'est parce qu'avec Julie, donc on travaille ensemble et c'est ma business manager. Et là, à la fin du mois d'octobre, elle part en freelance et en même temps, on faisait aussi un recrutement pour une nouvelle alternante. Donc, en fait, même si on a beaucoup travaillé sur la structuration, l'organisation, les process, etc., il fallait qu'on arrive à réajuster le tir parce que Julie n'est plus... ne va plus être en temps plein avec moi, une nouvelle personne va être en temps plein avec moi, qu'est-ce que Julie garde, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui manque en termes de délégation, etc. etc. Donc c'était plus sur un œil extérieur de Sonia pour nous aider à avancer dans cette direction-là, même si tout le travail de structuration, organisation, process, fonctionnement dans l'entreprise était déjà en place, mais comment est-ce que ça s'ajuste dans le temps quand t'as une entrée, une sortie, etc. etc., etc. quoi. Et puis mon thérapeute en fil rouge, quoi.
Ouais, non, mais c'est clair que de toute façon, quand t'as envie de mettre quelque chose en place, faire appel à quelqu'un qui l'a déjà mis en place, ça te fait gagner un temps incroyable. C'est vrai que c'est un investissement financier, mais ça fait tellement gagner de temps. Alors, je vais te poser la question suivante. C'est une question que j'aime beaucoup. Donc, on dit que c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Moi, généralement, c'est le cas. Dans quel domaine business estimes-tu que tu as des progrès à faire et que fais-tu pour te mettre en action dans ce domaine?
Là où j'ai progressé dessus, c'était sur mon parcours de vente, mon tunnel de vente. J'avais mis en place plusieurs freebies. Donc, freebies, c'est des lead magnets, des contenus qu'on offre, qu'on dit aussi gratuits, à disposition, sans qu'il se passe quoi que ce soit derrière. Tu venais télécharger quelque chose, il n'y avait même pas un mail de présentation, nada. J'offrais, c'est tout, voilà. Okay. Et puis en fait, du coup, ma conversion, c'était pas ouf, puisqu'en fait, la personne prend ce qu'elle a envie et puis s'en va, en fait, tout simplement. Ou alors, ok, va dans mon podcast ou sur mon Instagram. Mais entre les personnes qui téléchargent un lead magnet et les personnes à qui tu échanges réellement, il peut y avoir un océan de différence du nombre de personnes, tu vois. Et en fait... je savais que je devais travailler ça. Et en plus, c'est vraiment des choses sur lesquelles je mets un point d'honneur dans mes accompagnements avec ça. Et j'étais là genre, je sais, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Et donc, c'est en cours de progression puisque j'ai enfin un entre guillemets vrai lead magnet, donc qui est mon worksheet Notion sur 3 étapes pour en fait restructurer ton entreprise, on va dire en tout cas essayer de nettoyer un petit peu ce qu'il y a pour développer ton entreprise et surtout pour éviter le crash. Donc ça, ça t'aide en fait à faire l'état des lieux, prendre des décisions et passer à l'action. Et en fait, donc, c'est ça mon lead magnet principal. Et puis derrière, il y a 3 mails. Voilà, ils sont là mes mails. Et du coup, je suis en train d'enlever au fur et à mesure les autres lead magnets que j'ai créés, sur lesquels il ne se passe rien et qui sont même finalement plus vraiment, entre guillemets, en cohérence avec ce que je propose. Donc, c'est mon petit nettoyage. Je me lève jusqu'à la fin de l'année pour les ajuster et ou les enlever. Ça va, il y en a 3, c'est pas non plus la fin du monde. Mais c'était ça qui me posait le plus de problèmes. Je savais, j'y allais pas. Et je pointais ça du doigt quand, chez mes mentorés, c'était le même truc. Voilà.
Oui, bah. De toute façon, je te rassure. Hein, moi, c'est pareil, je me moque un peu de moi aussi. Qui suis professionnelle de la communication, qui a bossé 15 ans dans le domaine et qui procrastine, qui suis incapable de faire sa propre stratégie. Enfin, je la fais, ma stratégie de com, mais quand vient la création de publication et tout, je suis là, non, mais je sais pas.
Mais c'est dur, hein. C'est dur, hein.
C'est très dur.
Mais c'est tellement plus simple de montrer, de faire avec et pour les autres que pour soi-même. C'est pour ça qu'on s'est accompagné, hein.
Exactement. Alors, je vais enchaîner du coup sur une autre question aussi que j'aime bien, parce que dans le monde entrepreneurial, il y a beaucoup de gens qui mettent en avant des routines de la réussite, morning, miracle morning, enfin les routines de l'enfer en fait. Et du coup, je voulais savoir si toi, tu as des routines quotidiennes. Oui, non. Pourquoi ? Et alors, si oui, qu'est-ce qu'elle t'apporte ?
Tu m'as entendu rire. Ce miracle morning de l'enfer, je l'ai testé. Jadis, hein, je dis bien jadis, puisque c'était il y a fort longtemps. Et je l'ai tout simplement laissé, abandonné. J'ai même fait un déni. Parce qu'effectivement, comme tu dis, ça correspond à certaines personnes et pas d'autres. Moi, clairement, ce n'était pas le cas. J'aime me lever tôt, mais me lever à 5 heures pour faire mon yoga, ma salutation au soleil et mon... Non, c'est bon, non. Donc, je sais que j'ai besoin de me lever tôt parce que j'aime ce temps de solitude où en fait, j'habite à la campagne et en dehors du bruit de la nature et de mon chat qui crie pour sortir dehors, il ne se passe rien. Et j'apprécie ce temps-là où en fait, mon mec dort... la vie dort en fait et j'adore ce moment-là. Donc je me lève tôt pour profiter de ce temps-là et je lis. C'est ça en fait. Okay. Alors oui, j'ai mes étirements, etc. Mais ça, c'est plus d'un point de vue de ma santé parce que j'ai des problèmes de dos. Donc j'ai ma petite routine d'étirement quand même que je fais le matin et le soir pour prendre soin de mon dos. Mais le seul truc que je m'impose, c'est la lecture parce que je souhaite lire sur cette année 12 livres. J'en ai lu 10. On est en octobre. Ça va, je suis bien. Alors, 12 livres, c'est pas énorme. Surtout pour une littéraire où, en fait, je pouvais bouffer je ne sais combien de livres par semaine avant. Mais avant, il n'y avait pas autant Instagram, il n'y avait pas les TikTok, il n'y avait pas les LinkedIn, il n'y avait pas ton ordinateur à portée de clic, etc., etc. Et en fait, j'ai totalement laissé tomber la lecture et j'étais très frustrée de ne plus lire. Je n'écoute pas de livres audio, je n'y arrive pas. C'est vraiment la lecture, le livre, là, dans mes mains, avec mes yeux. Et donc, je m'impose 30 minutes de lecture le matin et 30 minutes de lecture plus tard dans la journée. Donc, soit avant de reprendre le taf, donc entre midi, enfin, en début d'après-midi. Mais je préfère quand même à la fin parce que ça m'aide à faire la coupure. Tu sais, avant, quand t'allais à un travail, t'avais ton temps, transport, voiture, etc. Où ce temps-là, quand même, était précieux. Alors certes, un peu relou parce que tu te tapes des trajets. Par contre, c'est le moment où tu décompresses, où tu déconnectes, tu vois. Et où tu arrives chez toi en disant « je suis chez moi, mon travail est derrière moi ». Quand tu travailles chez toi, qu'en fait, ton bureau est dans un endroit de la maison, au moment où tu passes ta porte, tu n'as pas ce temps de déconnexion. Donc, ces 30 minutes, j'en ai besoin pour ne plus être accroché aux diverses interactions que j'ai eues dans la journée, aux diverses zones de stress que j'ai pu avoir, j'ai besoin de ce temps de lecture et pas que des livres business. Là, je me suis acheté je ne sais combien de livres de Lise Bourbeau sur les blessures, sur la confiance, sur les croyances, sur plein de trucs.
Oui.
Absolument génial. Et donc, c'est pas business. Et puis, des fois, je vais lire un roman, une biographie. Voilà. Mais j'ai besoin de ce temps. 30 minutes, c'est pas grand-chose. Et même les premiers temps où je me suis remise à lire, 15 minutes, c'était hyper compliqué parce que comme tu es devant les écrans, tu perds en concentration et en attention quand ce n'est pas un écran. Et du coup, je voyais qu'au bout de 15 minutes, j'avais le cerveau là, qui partait un peu partout. J'étais en train de me dire sur Instagram et sur WhatsApp, il se passe quoi, et sur Slack, il se passe quoi, etc., etc. Alors qu'en fait, j'arrivais plus à être dans mon livre. Donc, au départ, c'était 15 minutes et au fur et à mesure, bah, maintenant, c'est 30 minutes. Voilà.
Ok. C'est et ça. Du coup, ça fait longtemps que tu as mis en place cette routine ?
Alors, je lisais déjà l'année dernière. L'année dernière, je crois que j'avais un objectif de 6 livres à l'année. Alors quand je dis 6 livres, c'est en fait finalement tu en lis un peu plus parce que quand tu es en vacances, tu pars à la plage ou j'en sais rien, tu prends ton bouquin et etc. Mais c'est vraiment 6 livres dans le commun des mortels, le quotidien, tu vois. C'est je veux vraiment avoir mon livre comme ton livre de chevet que j'ai plus en fait parce que je ne lis plus quand je suis dans mon lit. Je me mets devant une série, non pas Grey's Anatomy, mon mec ne regarde pas Grey's Anatomy. On se met devant une autre série. Et on regarde ça ou un film, je ne lis plus. Ouais. Et donc, du coup, bah, je me suis forcée à mettre ces temps de lecture dans ma journée pour la commencer et la terminer. Donc, c'est vraiment depuis début de l'année, là, où j'ai vu que j'avais pu tenir, entre guillemets, 6 livres l'année dernière sans pression. Ça me faisait du bien, instaurer ça tranquillement. Et là, bon, bah, écoute, ça roule. Alors bon, effectivement, ça fait 15 jours que je n'ai pas lu comme j'avais envie de lire. Mais je me fous la paix parce que je sais que je suis bien aussi sur mon objectif. Parce qu'en ce moment, j'ai pas envie. J'ai envie juste de prendre soin de mon dos. J'ai juste envie d'être tranquille, d'aller dehors, de pas lire. Voilà. Et je reprendrai la lecture tranquillou.
Ouais, ouais. Non, mais en fait, avec cette question, c'est quelque chose que je veux pointer du doigt. C'est qu'en fait, les routines, c'est bien si t'arrives à trouver une routine qui te convient, voilà. Mais à un moment donné, peut-être que t'auras plus envie de la faire. Mm-hmm. Et comme tu dis, c'est ok en fait. Enfin, juste, faut s'écouter quoi. Mm-hmm. Et puis peut-être que tu reprendras à un moment donné, plus tard. Mais je trouve ton idée du coup de lire 30 minutes à la fin de ta journée pour couper avec ta journée très intéressante.
Mais oui, c'est ça. C'est parce qu'en plus, avant, j'avais tendance genre soit à sortir avec mon travail en dehors de mon bureau, soit directement à passer à ma deuxième vie. Genre, allez vite, machine la vaisselle. Mais non. En fait, quand t'as ton temps de trajet avant, ce temps était là, entre guillemets, un peu pour toi quand même, même si tu étais peut-être en train de rager dans les transports parisiens ou lyonnais ou j'en sais rien. Tu étais là, dans ton temps. Et donc, quand tu arrivais chez toi, bah, tu passais à ta deuxième vie. Et pourquoi est-ce qu'on s'enlèverait ce temps-là pour faire autre chose que prendre soin de soi ou d'être là pour soi ou de ne rien faire pour soi-même, tu vois ? Donc, ces 30 minutes-là, ce n'est pas du temps plus business et ce n'est pas du temps plus vidage de la vaisselle et compagnie. C'est du temps en plus que je prends pour moi, pour faire ce que j'ai envie de faire. Et si c'est 30 minutes d'une série américaine, ce sera 30 minutes d'une série américaine.
Tout à fait. Si c'est 30 minutes de Grey's Anatomy.
Voilà, c'est ça. Pour ne pas citer la série fave.
Et comme ça, tu te prends une petite crise de larmes ou une petite. Voilà, tu choisis l'épisode.
C'est ça. Et après, tu vas manger tes lasagnes et ton moelleux au chocolat pour te réconforter.
C'est ça. Il y a des routines qui sont pas mal quand même.
Ouais, ouais.
Alors, on va arriver sur les deux dernières questions du podcast. S'il y a une question à laquelle tu aimerais que nos auditrices puissent réfléchir aujourd'hui, ce serait laquelle ? Moi, j'aime beaucoup poser des questions et réfléchir.
Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dans votre entreprise, puisque, chère auditorice, vous êtes entrepreneuse, il me semble. Comment est-ce que vous vous sentez sur une échelle de 1 à 5 dans votre business aujourd'hui ? Et selon vous, du coup, pour pouvoir du coup réfléchir et aussi un peu passer à l'action, selon vous, que pouvez-vous faire immédiatement pour vous sentir mieux ? Ça, c'est un peu ma question quotidienne. Hein. Enfin, en tout cas, quand je sens qu'il y a un point de blocage, ok, j'en suis où là ? Sur mon échelle de bonheur.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire immédiatement ? Oui. Alors, pourquoi immédiatement ?
Parce que sinon, on ne le fait jamais.
Ok.
Sinon, on est là genre... Après, on va se trouver des excuses où le mental va prendre le dessus de... Oui, mais non, là, tu peux pas parce que du coup, ton client, il va te juger. Et puis, du coup, là, ton... Non. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire? Si c'est aller dehors prendre l'air, c'est aller dehors prendre l'air. Ou si c'est, en fait, envoyer ce mail à ce client relou qui nous tanne depuis 6 mois, c'est maintenant, en fait. Si c'est le... C'est maintenant. Qu'est-ce que je peux faire immédiatement pour me sentir mieux?
Ok, dernière question. Est-ce que tu as 2 outils ou ressources que tu adores et que tu veux conseiller aux entrepreneuses qui nous écoutent?
Alors, conseil lecture, du coup. Mais deux, c'est très compliqué. Je dirais, alors, en premier, le livre de Pierre Dron que je te montre à toi. Donc, il s'appelle Remarquable. Hop là, tu le vois? Oui. Réussir. Du coup, le titre, c'est Réussir en créant une marque unique, durable et rentable. Ça a été mon livre coup de cœur de cette année. Je connais Pierre Dron depuis un moment et on échangeait. Et du coup, il m'a proposé de faire un épisode de podcast sur son livre et lui-même. Je lui ai dit, mais il faut que je lise ton livre. Et du coup, il m'a envoyé son livre. Enfin, son éditeur a envoyé le livre. Mais entre-temps, ça arrivait, c'était trop long. Donc, je me suis acheté le livre. et en fait, j'étais en vacances. Je ne m'attendais clairement pas à ça. J'étais en vacances en Espagne. Et j'ai lu le livre et ça a été ouf parce que j'ai dû aller m'acheter d'urgence un carnet. Alors, tout à l'heure, j'ai dit non, mais je ne prends pas le truc papier, machin. Mais du coup, à la plage, je n'allais pas prendre mon ordi, je n'avais pas mon téléphone, rien, je ne pouvais pas prendre de notes. Et en fait, son livre m'a remué le cerveau, mais sévère, mais hyper positif. Je suis allée d'urgence m'acheter un stylo, un carnet de notes et du coup, j'ai commencé à griffonner sur ma serviette, etc. Et je l'ai relu juste après. Pouvoir passer à l'action. Parce que dans son livre, en fait, il y a aussi des exercices, il y a des choses. Enfin, moi, j'ai trouvé hyper puissant, simple, hyper agréable. Je lui ai même dit, j'ai eu l'impression que tu étais mon pocket coach, quoi. Tu étais là dans ma poche, pas loin, à 2 pouces d'une page, et c'était trop bien. Donc, je recommande fortement ce livre. J'ai enregistré l'épisode avec Pierre Dron, il est sorti début septembre, je sais plus quand. Peut-être le 6 ou je sais plus. Je crois que c'est le premier épisode de la rentrée en septembre où on parle de ce livre, où je fais aussi mes retours et comment j'ai tout ce que ça a fait pour moi, chez moi, tout ça. Donc je le recommande vraiment. Je te dis, j'ai lu 2 fois en une semaine, 10 jours d'écart, quoi. Vraiment.
D'accord. Je connaissais pas du tout, mais du coup, tu as piqué ma curiosité.
Et bah,
je
il est absolument génial.
Les références dans les ressources.
Et puis pour le deuxième, oh là là. Est-ce que j'ai le droit de faire une petite pirouette en disant qu'il faut commencer avec ce livre et terminer par un autre et puis 2 autres en même temps?
Oui, bien sûr, vas-y. Ici, on adore les ressources. Parfait. Donc vas-y.
Eh ben, celui-ci, The One Thing, dont tu as déjà parlé plusieurs fois. Et tu vois, regarde à quel point j'ai laissé des marque-pages de partout. Là,
ah oui, voilà, parce qu'il y a des petits marque-pages absolument partout.
Oui, parce que quand je lis notamment des livres business, je prends des notes sur mon iPad. Ensuite, je mets dans ma base de connaissances sur Notion. Et du coup, je laisse des trucs pour ma prise de notes, mais aussi pour aller rapidement à l'endroit où j'ai besoin. Voilà. Ok. Ensuite, je dirais sur mon ordonnance de lecture, ensuite on enchaîne avec Essentialisme de Greg McKeown. Mon anglais est naze, mais c'est lui. Donc Essentialisme.
Ok.
On continue avec celui-ci. Ensuite, on enchaîne sur la règle du x10. Donc, pensez 10 fois plus grand pour passer de l'échec au succès de Grant Cardone. Et enfin. Grande révélation aussi pour moi cette année, c'est le livre qui s'appelle Le Profit d'abord de Mike, dont je ne dirai pas le nom de famille parce que franchement le pauvre, je pense que ses oreilles pourraient saigner.
Michalovic.
Voilà, à tes souhaits. Lui, c'était une recommandation de Sonia Le Rambourg dans sa newsletter audio. Et j'ai été piquée parce que moi, je suis dyscalculique, j'ai une allergie aux chiffres. J'ai pendant très longtemps eu très peur des chiffres et donc beaucoup fait l'autruche. Et en fait, ce livre-là, je l'ai adoré. Je l'ai lu 2 fois aussi au mois d'août. Et c'est le système que je suis en train de mettre en place dans ma propre entreprise en termes de gestion, de compte et de profit. Voilà. Et ça m'a aussi motivée à avoir du coup mon comptable, déjà de base, parce que je suis en société, donc obligation comptable, d'avoir un comptable. Mais aussi d'avoir Julie en tant qu'aide comptable. Donc c'est avec elle qu'on met en place le profit d'abord. Et c'est elle qui me traduit, en fait, tout ce langage chiffre que mon cerveau, en fait, n'imprime pas. et du coup, okay. Je gagne beaucoup en sérénité, aisance et vision. Voilà. Et j'arrête d'être D'accord. en PLS quand je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi il y a des moins, des rouges, des trucs comme ça là. Non, maintenant, c'est Julie qui me traduit.
Oh, mais très bien. Mais c'est vrai que du coup, profit first, le profit d'abord et essentialisme, ils sont dans ma liste mm-hmm. aussi. Je crois que c'est Geneviève Gauvin qui en parlait aussi pas mal.
Oui, possible, oui.
Je connaissais pas du tout la règle du x10, The One Thing, bien sûr, je connais, mm-hmm. j'ai fait un épisode là-dessus, et bon, du coup, j'irai voir le livre de Pierre Dron. Très bien, merci Justine.
Avec grand plaisir. J'ai triché, tu m'as dit deux, mais en fait, non, il faut prendre les... Il y en a combien ? Cinq, voilà, il faut prendre les cinq, et en fait, je les ai donnés dans l'ordre chronologique, en fait, dans l'ordre okay. de lecture.
Ah mais, alors, pour The One Thing et essentialisme, je suis totalement d'accord avec toi, puisque de toute façon, The One Thing, la phrase, c'est d'aller à l'essentiel.
Voilà, c'est ça. Et l'essentialisme fait la petite leçon, en fait. Enfin, ouais, c'est une Reddit un peu différente, mais en fait, ça rafraîchit un peu la mémoire et les idées. Là, bah oui, 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 effectivement. Mais du coup, si t'as pas appliqué totalement The One Thing, bah, quand tu lis l'essentialisme, t'es là genre, oh, j'étais passée à côté de ça, tu vois.
Ok, bah écoute, super. On a beaucoup de choses à lire mm-hmm. maintenant.
Totalement.
Donc je crois que nous aussi, on va mettre en place le petit rituel, une heure de lecture par jour pour réussir à tout lire. Parce que moi, je t'avoue que je suis pas très livre audio non plus, donc on va rester en mode lecture.
C'est ça, ne lisez pas que des livres business ou pour être la meilleure version de vous-même, ou j'en sais rien, lisez des trucs qui vous font plaisir en fait. C'est vraiment ça qui est important.
Eh ben merci pour ce mot de la fin.
Mais de rien.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose juste avant, peut-être rappeler tes programmes
Je crois qu'on a dit énormément de choses. Je crois qu'aussi tu as fait une très belle promo de Mova ou de Réveille ton Bise. Franchement, je n'ai rien d'autre à ajouter en dehors de si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans votre quotidien d'entrepreneur, ne laissez surtout pas les choses se tasser. Il n'y a que vous, en fait, qui peut instaurer un changement et faire bouger les choses. Vous êtes la seule personne et la mieux placée pour créer quelque chose qui vous correspond. Et si c'est pour vous faire, si pour que vous puissiez avancer, il faut vous faire accompagner, eh bien, alors, pas forcément moi, mais il y a plein de personnes qui peuvent vous aider à sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et donc, du coup, de se faire accompagner, c'est aussi faire preuve un peu d'humilité et de maturité et de ténacité. Et votre bise vous remerciera et votre vie d'humaine et d'humain aussi.
Merci beaucoup, Justine.
De rien.
Cette interview était vraiment très, très riche. Et du coup, merci, merci, merci.
Merci à toi.
Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine !